Bonsoir. Tribune de presse est centrée aujourd'hui sur l'accord de paix de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, en signant cet accord pour le compte de son pays, certifie la présence des militaires rwandais sur le sol congolais sous prétexte de pourchasser les FDLR aux côtés des rebelles du M23. Et des retours de Washington aux États-Unis d'Amérique, où elle a signé l'accord de paix au nom de la République démocratique du Congo, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, et les experts de la présidence et à travailler sur ces dossiers ont été reçus lundi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République pour faire la restitution de leur mission. Selon la présidence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner a remis au chef de l'État la copie originale de l'accord de paix et la lettre de son homologue américain Donald Trump. Pendant ce temps, le cinquième round de pourparlers entre les rebelles du M23 et le gouvernement souminois est attendu à Doha, au Qatar, en vue d'y trouver de compromis pour la capitulation de ces mouvements rebelles. Comment le journaliste congolais analyse-t-il le contenu de cet accord de paix de Washington face à la réalité à l'est du pays? Au micro, c'est moi Freddy Bikumbi Ignace, Paul Badianama, Debs Vita et Jean-Pierre Diassino tiennent la technique. Ils participent à ces débats. Messieurs Belédou Dou Jésus, bonsoir et bienvenue.
Merci Freddy. Et producteur de Radio Capital.
Vous êtes journaliste et éditeur du média en ligne libertéactu.net. Guy Yuma, bonsoir.
Bonsoir Freddy.
Vous êtes journaliste à la chaîne Bosolo ici à Kinshasa.
Oui, journaliste à Bosolo Télévision.
Il est aussi avec nous au studio, Alain Botoko. Bonsoir doyen.
Bonsoir Freddy, bonsoir à tout le monde.
Vous êtes journaliste et directeur de publication de plusieurs médias en ligne en RDC. À vous qui nous suivez à Iyo-O, Mwenga, au Sud Kivu et partout au monde, bienvenue à ces rendez-vous du débat radiophonique sur Radio Okapi. Bienvenue à vous, chers auditeurs de la Radio de la Paix. Il y a eu l'accord de paix de Washington signé vendredi 27 juin entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et celle de la République démocratique du Congo. Cet accord vise, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, l'intégration conditionnelle de rebelles au sein de l'armée ou des institutions, interdit de continuer avec les hostilités, mais aussi la neutralisation de FDLR et ne pas soutenir les groupes armés de part et d'autre, donc entre le Rwanda et la RDC. Comment cet accord a été accueilli? Suivez un auditeur de la Radio Capi qui se trouve à Uvira et puis je vous donne la parole.
Amani Kassali, depuis la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. À mon avis, en réalité, le Rwanda lui-même s'est rendu coupable du fait que la guerre qui est sur terrain, c'est entre la RDC et le M23. Une guerre n'a jamais été proclamée entre la RDC et le Rwanda. Comment le Rwanda a signé l'accord de paix alors que ce n'est pas lui qui agresse le Congo? Donc le fait que le Rwanda a signé cet accord en place du M23 serait accepté tacitement tout ce que l'on pourra lui taxer derrière le M23. Le monde entier attend les actions pratiques infligées au Rwanda, dont son soutien a permis au M23 de commettre de graves violations des droits humains.
Ça c'est un auditeur, c'est un Congolais. Il parle de cet accord signé entre le Rwanda et la RDC. Et vous, journaliste, que dites-vous de cet accord de Washington? Guillaume.
Freddy, merci de la parole et merci d'avoir pensé à commencer avec moi. La signature de cet accord, Freddy, est un tournant historique pour notre pays. Vous savez que ça fait 30 ans aujourd'hui que la partie orientale de notre pays est secouée par une insécurité criante. Et que aujourd'hui, voir le Rwanda parce que la RDC a toujours fait passer le Rwanda comme étant le pays qui agresse, le pays qui est à la base de toutes les insécurités. Lorsque le M23 ont commencé les hostilités dans la partie orientale, le gouvernement de Kinshasa n'a cessé de décrier, n'est-ce pas, la mainmise du Rwanda derrière toutes les actions qu'est mené ou qu'est mène le M23. Le Rwanda refusait et n'arrivait pas à accepter la responsabilité.
Maintenant, à Washington, le Rwanda a signé un accord.
Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est un accord qui est signé entre États, c'est-à-dire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda signe l'accord sur base de quoi? C'est la question que le Congolais se pose. Parce que le fait de signer le Rwanda, du moment où le Rwanda ne reconnaît pas d'être présent sur le sol congolais, alors que le gouvernement de Kinshasa a toujours, accusé le Rwanda d'être présent sur le sol congolais à travers son armée, cela atteste que le Rwanda endosse la responsabilité. Aujourd'hui, le Rwanda reconnaît le fait d'être derrière le M23. Mais j'étais en train de dire que c'est la signature de cet accord est un tournant historique parce que cet accord met les deux parties devant leurs responsabilités. C'est-à-dire, le Rwanda doit respecter ce sur quoi il a dû poser sa signature. C'est-à-dire, respecter tous les engagements, c'est-à-dire d'après les 8 points qui composent cet accord.
Mais aussi le Congo, il y a la question des exilés.
Exactement. La République démocratique du Congo, d'après la demande du Rwanda, qui estime que le FDLR se trouve dans le sol congolais et que ces derniers constituent une menace pour le régime de Kigali, mais il y a une nuance. La République démocratique du Congo dit quoi? Oui, vous dites cela, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Avant que l'on s'engage à neutraliser le FDLR, vous devez quitter les sols congolais. Donc, c'est au Rwanda aussi d'obtempérer ou de passer au respect de cet engagement en retirant ces militaires sur le sol congolais. C'est en ce moment-là que le gouvernement de Kinshasa ou la RDC se mettra, n'est-ce pas, à exécuter ce dont le Rwanda demande, c'est-à-dire la neutralisation de FDLR.
Mais les FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils sont devenus menaçants ou c'est un faux fuyard du Rwanda?
Bon,
ils n'ont jamais attaqué le Rwanda.
L'opinion ne cesse de s'interroger sur cette question. Parce que le Rwanda, dans ses accusations, ne reste que souvent sur ce point-là du FDLR. C'est-à-dire, si le Rwanda reconnaît ou s'est dit qu'il y a la présence des FDLR, parce que je reviens, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Kitundu, je pense bien, qui aurait dit que le Rwanda, et plutôt le FDLR, ne serait qu'une force dérisoire. C'est-à-dire, en soi, on ne sait pas où identifier, où retrouver le FDLR. Parce que le FDLR n'ont jamais été campé quelque part et qu'on doit aller le retrouver, le récupérer. Mais vous avez le Rwanda qui porte ses accusations sur cette force. C'est-à-dire, c'est un fond fuyant. Mais cela étant, la République démocratique, parce que nous sommes, il y a une notion qu'il faut soulever ici, cher Freddy. C'est quoi la notion? Nous sommes en sociologie de conflit. En sociologie de conflit, c'est-à-dire qu'il y a la théorie des concessions. Dans la théorie des concessions, les deux parties prenantes, c'est-à-dire qui s'engagent aux négociations, aux discussions, devraient, n'est-ce pas, se mettre d'accord. Se mettre d'accord autour de tout ce qu'ils veulent obtenir. C'est-à-dire, je dois, moi, d'après ce que j'exige, accepter les exigences, devrais-je dire, permettez-moi la tautologie, de l'autre. C'est ainsi, la République démocratique du Congo, voulant à tout prix obtenir la paix, s'est dit, ok, bien que ça soit un faux fuyant, mais d'accord, nous, on est d'accord de vous accompagner dans cette démarche, mais à une seule condition, vous devez, n'est-ce pas, quitter le sol congolais où vos militaires se voient être en posant des actes hostiles.
Je vais vers vous, Belédou, d'où Jésus, comment est-ce que vous avez accueilli la signature de cet accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda?
L'idéal aurait été voulu que cet accord soit conclu dans un contexte de rapport des forces équilibrées ou un rapport des forces qui penche en faveur de la République démocratique du Congo. Parce qu'il se pose un problème de momento. Le momento, c'est que cet accord est conclu pendant qu'une armée étrangère est sur le sol congolais. Et donc, nous sommes devant un fait accompli. C'est tout à fait normal que cet accord soit accueilli de manière positive par les Congolais dans un contexte où une bonne partie de la République démocratique du Congo est entre les mains de Rwandais, en proie à une agression où les populations souffrent. Je fais allusion ici à Rutshuru, Bunagana qui a été pris depuis près de plus de 3 ans aujourd'hui, ou récemment Goma, Bukavu. En fait, ce parti qui constitue le Congo utile en termes des ressources humaines, en termes des ressources minérales. Et donc, c'est tout à fait normal que si cet accord qui tombe au moment où les hostilités peuvent se taire, les populations meurtries pendant 30 années de l'est du pays peuvent trouver une paix et une paix durable comme cela est mentionné dans l'accord, je pense que cet accord ne peut qu'être la bienvenue dans la mesure où cet accord a permis à ce que l'avancée de la rébellion passe en conséquence. Chaque semaine, c'était des villes, des territoires, des provinces qui tombaient. Et depuis le début de ces deals avec Washington, nous avons constaté qu'il y a une sorte d'accalmie. Et donc maintenant, lorsqu'on s'en tient au contenu de l'accord, nous pouvons dire ici que cet accord regorge de côtés positifs, plusieurs côtés positifs d'ailleurs, autant que cet accord accuse certaines faiblesses. Je fais allusion à l'accord RDC-Rwanda.
Mais Belédou, on dit parmi les faiblesses, les Congolais voulaient assez qu'on puisse y écrire « agression ». Mais on n'en a pas fait allusion et pourtant on a utilisé de bons termes en français.
Vous savez, dans un contexte d'une agression où il y a eu des morts encore tout récemment, il faudrait que, là je commence par les faiblesses, il fallait que cet accord porte aussi une sorte de légitimité au niveau des populations. Pas toutes les populations seulement, mais d'abord les populations meurtries. Une sorte de non à l'impunité lancée à ces populations qui meurent chaque jour pourrait aussi s'approprier, légitimer cet accord qui engage les Congolais. Mais on a l'impression que c'est un accord qui a consacré l'impunité parce que justement, nulle part, il est dit quoi réserver au Rwanda en termes de sanctions. Bon, il est aussi vrai que c'est que nous sommes dans un rapport international. En relation internationale, les accords doivent s'exécuter de bonne foi. On ne fait pas trop mention aux sanctions lorsqu'on parle de ce genre d'accord. Mais on pensait quand même que cela serait très capital pour les populations de l'Est de voir mentionné dans cet accord que le Rwanda accepte la responsabilité de massacre dans cette partie de l'est du pays.
Peut-être alors, que ça pourra venir, Belédou, mais le point positif...
Nous allons compter sur d'autres mécanismes, notamment la RDC pourrait activer la justice internationale pour que le meurtre, le massacre, les violations de droits de l'homme pendant cette période occupée par le Rwanda ne restent pas infinies. Un peu comme on a eu des causes avec l'Ouganda. Alors, du côté avantageux, je pense que cet accord porte aussi une lueur d'espoir dans la mesure où, sur le plan économique, il est vrai que jusque-là, aucun accord économique n'a été conclu, ni avec le Rwanda, ni avec les États-Unis, bien que cela est en gestation. Mais sur l'accord de paix, si cet accord va permettre à ce que les minerais de la RDC, qui c'est un secret des polichinelles, sont pillés par le Rwanda et quelques États africains, donc quelques États occidentaux se constituent en resellers, en achetant des minerais pillés. Si cet accord va permettre à ce que on mette une fin stratégique au pillage de nos minerais par les Chinois, par certains pays en Asie, je pense que cet accord ne peut être que salué dans la mesure où la RDC aura un deal direct avec les États-Unis au terme de près de 500 milliards de dollars. Merci. Et donc, merci. La RDC, finalement, aura un partenariat formalisé au niveau international avec la première puissance mondiale. Donc, ceci implique quoi? Je vais peut-être terminer par là. Ceci implique, un, la fin des massacres, parce que vous savez très bien, la guerre que le pays voisin nous font est à la fois économique et une guerre qui vise des terres de la RDC et l'occupation. Et donc, cette guerre-là, pour mettre définitivement fin aux hostilités, je pense qu'un accord avec les États-Unis va résorber à la fois les problèmes sécuritaires dans cette partie du pays. Voilà pourquoi, les préalables étant, je crois que Félix Tshisekedi l'a rappelé dans sa sortie, était d'avoir un partenariat de paix avec le Rwanda avant l'effectivité du deal.
Merci, voilà. Merci Belédou. Alain Botoko, comment est-ce que vous vous analysez cet accord de Washington? Et pourtant, Belédou parle de la bonne foi d'application dans les relations internationales.
L'accord n'a jamais été parfait depuis que la nuit d'État existe, depuis que les guerres ont commencé ou les hostilités ont commencé dans le monde. Il n'y a pas eu un accord parfait, mais au moins cet accord nous donne l'impression d'être un bon accord qui pourrait amener quelque chose de solide dans le pays. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cet accord, il y avait aussi des accords entre le Rwanda et la RDC, mais qui...
Signé par Kabila,
oui,
Joseph.
Oui, signé par Kabila, Joseph, mais il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de porteur de cet accord, mais il y a un grand porteur de cet accord qui est les États-Unis et qui ne fait pas fri. Il a intérêt parce que dans les jours, comme le disaient les autres, dans les jours qui viennent, il y aura un deal qui sera signé entre les États-Unis et la RDC concernant les mines. Et c'est là que il faut que les deux parties, la RDC et le Rwanda, comprennent que la grande puissance a intérêt à s'investir au Congo et il a besoin qu'il y ait accalmie au Congo. Et donc, les deux parties doivent jouer à ce que à ce que demande cet accord, clairement, parce que l'accord demande que les Rwandais enlèvent leurs militaires, mais aussi leurs milices du Congo. On ne l'a pas dit très clairement, mais avec des termes diplomatiques et des termes techniques, c'est ce que ça veut dire. Mais aussi, ça dit que les 2000 ou les 1000 quelques FDLR qui sont au Congo doivent repartir au Rwanda ou être désarmés et ne plus jamais être comme prétexte pour donner à Kagame ou au Rwanda l'opportunité de pouvoir continuer à faire des bêtises.
Mais pensez-vous qu'il y aura bonne foi d'application de cet accord?
Vous savez, il y a souvent, il y a toujours des non-dits dans les accords. Et ça, c'est là où j'aime, parce que j'ai fait trop d'investigations. Mais la grande puissance, les États-Unis, et Trump l'a déjà démontré, il vient avec la carotte et le fouet. C'est-à-dire, il vous propose, faites ça. Et si vous ne faites pas, il fouette. Et donc, je sais que Kagame et son groupe comprennent ça, ils savent ça, que les États-Unis ne sont pas là pour blaguer. Et ils l'ont démontré à travers le monde. On a vu avec l'Ira. Il dit à l'Ira, venez, on négocie. L'Ira doute, il boude. Et nous avons vu la suite. Hein. Ce sont des bombardiers qui sont sortis, le BD qui sont sortis, et ça a mis fait à toutes les bêtises. Moi, je crois que le temps de la guerre devait être derrière nous. Et maintenant, il faut reconstruire la paix.
Mais écoutez, ça fait plus de 4 fois que le Rwanda est entré sur le sol congolais avec ses militaires pour rechercher les FDLR. Ils n'ont jamais ramené un FDLR. Qu'est-ce qu'on prend de cette demande du côté Rwanda vis-à-vis de la RDC?
C'est un prétexte. Et ce prétexte, il faut le vider. Il faut le vider parce que Kagame n'aura plus un mot à dire, parce que à ce moment-là, tout sera déjà toute cette bêtise serait déjà balayée. Et moi je voulais justement parler vraiment de ce qui va arriver dans le jour qui sont en train de venir.
Ça sera quoi?
Ça sera le deal entre les États-Unis et la RDC. Et ce deal-là, il sera dans le mine. Et moi, je souhaiterais, parce que j'ai une expertise dans le mine, je travaille dans ce secteur des ressources naturelles, de l'industrie d'extraction depuis une vingtaine d'années. Et là, le grand problème qu'a le Congo, c'est que nous vivons de la cueillette dans nos mines. Et donc, ce sont les artisanaux qui sont partout à travers le pays, et surtout dans cette partie-là. Et ils créent, ces artisanaux sont utilisés par des hommes d'affaires, sont utilisés par les groupes armés, ils sont utilisés par des chefs coutumiers, des militaires, ils sont utilisés parfois par des hommes politiques. Et maintenant, il faut vraiment une industrie, des industries. On met par exemple une industrie de castérite, une industrie de toité, une industrie de minéraux rares, une industrie de minéraux stratégiques. Et si ces industries-là sont basées à l'est de notre pays, et même au Katanga, là où les Chinois font du n'importe quoi, et même dans le haut du pays, si ces industries-là sont basées là-bas, je suis sûr, comme Kibali est de l'autre côté, à Wacha, au bas où il est, si on met des industries comme celles-là, je suis sûr qu'en tout cas, on ne parlera plus de guerre. Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment, vraiment aller travailler. Alors, pour y arriver, il faut que la RDC fasse sa part. Hein, parce que ça, cet accord, c'est aussi une hypothèque. Hein. L'hypothèque, on vient à votre secours que quand vous montrez de bonnes intentions, quand vous êtes dans la limite. Mais quand vous ne montrez pas de bonnes intentions, ça risque d'être aussi des problèmes. Alors, la RDC doit travailler pour connaître effectivement quelle est sa politique dans ces mines, qu'est-ce qu'il faut faire, qui sont les acteurs qui doivent rester dans ces mines, et ces mines doivent profiter au pays dans quoi, et mettre une industrie minière qui fera que les routes, le chemin de fer, l'énergie et tout autre secteur de production, l'agriculture, se mêle dans et qu'il y ait un développement, parce que après la pluie, il y a quand même un beau temps, et moi je pense que c'est le moment qu'il faut pour vivre le beau temps au Congo.
Vous êtes de journaliste, il y a des pessimistes par rapport à cet accord de paix de Washington qui estiment que le Rwanda, le président Paul Kagame, a été soutenu par trois présidents américains durant tout son mandat. Il y a eu Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, et maintenant il y a Donald Trump qui vient changer et se mettre de l'autre côté de la frontière pour soutenir le régime actuel. Est-ce que ça va aider à changer les choses dans la région du Grand Lac, Belédou?
Bon, moi je pense que entre États, il y a que des intérêts. On nous a très longtemps vendu que le Rwanda est soutenu par les États-Unis, etc. depuis Bill Clinton. Maintenant que la RDC n'a apporté que ce qu'elle a de mieux, ses ressources naturelles, contre la sécurité et contre une économie florissante dans les jours qui viennent, je pense que cet accord ne peut qu'être la bienvenue. Et je pense également que la RDC est en train de renverser la situation par rapport à cette agression qui n'a fait que durer quant année. On ne va pas dire ici que c'est du triomphalisme, parce qu'on connaît les contextes, je l'ai rappelé, mais seulement, ce deal américain, plusieurs fois Donald Trump l'a rappelé, plusieurs fois également Félix Tshisekedi l'a rappelé, c'est un deal qui vise à pacifier définitivement le pays. En fait, l'objectif, c'est d'arrêter définitivement avec les pillages de nos ressources, surtout celles de la partie SMP. C'est aussi d'arrêter les massacres, les tueries, du fait que les gens en voulaient définitivement à nos richesses. La preuve, c'est que lorsque vous lisez, par exemple, l'accord, dans le premier point, lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités, il y a au premier point un élément important. On a parlé de l'intégrité territoriale de la RDC, mais surtout du désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. En fait, cet accord vise, d'abord, quelqu'un l'a dit dans cette émission, d'abord met à nu le Rwanda, qui est le premier soutien de la rébellion, notamment de l'UM23, de l'AFC, et malheureusement d'un ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est impliqué dans ce désordre dans l'est du pays. Et cet accord stipule expressis verbis, rappelle la résolution des Nations Unies 2773, qui stipule clairement les retraits des troupes rwandaises, mais aussi de ceux supplétifs, parmi lesquels le M23, l'AFC. Et donc, ceci veut dire, lorsque le Rwanda part, quitte les territoires congolais, cela va se faire concomitamment avec les désengagements des force négative soutenue par le Rwanda. Et c'est ainsi que des professionnels, les forces négatives soutenues par le Rwanda, c'est le M23 et l'AFC. Alors, ça s'est demandé que deviendra le processus de Doha. Le processus de Doha, justement, par le moment où le Rwanda accepte de neutraliser ses soutiens, parce que les deux États ont pris l'engagement, autant que la RDC a pris l'engagement de ne pas soutenir les FDLR, de poursuivre les FDLR, je crois que ça c'est le titre 2 dans cet accord lorsqu'on parle des désengagements, désarmements et intégration des groupes armés non étatiques. Le M23 prit l'engagement de ne plus soutenir la FCM23 autant que la RDC a pris l'engagement de ne pas soutenir le FDLR. Ce qui veut dire l'avenir du M23 et de Doha, par moment où le Rwanda s'y retire, automatiquement, on doit assister à une cessation des hostilités, un désengagement, une neutralisation, voilà le terme technique sécuritaire, de l'AFC de Nanga et du M23. Et donc, je pense que ça sera un début de solution.
Oui.
Et l'aîné l'a dit sur ce plateau, lorsqu'il rappelait que la beauté de la chose dans cet accord de paix, c'est que l'accord est signé avec la facilitation ou la médiation des États-Unis.
Merci, Bélézou.
Les États-Unis, justement, constituent une épée de Damoclès sur le Rwanda qui n'a jamais été sincère sur tous les accords qu'il a signés avec la République démocratique du Congo.
Si le Rwanda contente
à violer ces accords, à ne pas respecter, donc l'opinion compte sur l'épée de Damoclès des États-Unis, il y aura un deal avec la RDC.
Merci Bélédou. Il y a des gens qui doutent, Guillaume, il y a des Congolais qui doutent de cet accord de paix de Washington parce que le Rwanda a été soutenu par 3 présidents américains avant Donald Trump et que les choses changent avec cet accord. Vous, étant journaliste congolais, qu'en pensez-vous par rapport à la réalité sur le terrain?
Je m'inscris déjà en faux.
face à tous ces gens qui développent le scepticisme. Il est vrai que le scepticisme est dans le choc des Congolais. Mais il faudrait que les gens se mettent dans cette logique. La logique de vouloir comprendre cet accord se signe dans quel contexte. Et qui en est le médiateur? Le médiateur, c'est la grande puissance. Le médiateur, c'est les États-Unis d'Amérique. Et dans cette médiation, ce qui intéresse plus le scrupuleux, c'est la position, la posture que prend Donald Trump dans cette médiation.
Mais Donald Trump, avant lui, il y a eu Joe Biden, écoutez, Obama et Bill Clinton.
Voilà, il est le seul, vous l'avez dit, depuis Bill Clinton jusqu'à Joe Biden, aucun de ses présidents n'a eu à citer nommément le Rwanda comme étant le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas plus longtemps que, je pense que ça doit être la semaine écoulée, où lors du sommet de l'OTAN, Donald Trump l'a dit tout haut. Il prend parole pour dire que le Rwanda est entré sur le sol congolais avec machette, tué, coupé. Et ça, c'est le président américain qui l'a dit.
Vous pensez
qu'il le reconnaît?
Vous pensez qu'il peut changer ce que les trois autres ont fait?
Non, mais voilà, il a dit. Le fait de le dire déjà est aussi pour... Parce que j'étais en train d'aborder la question sur le scepticisme de certains Congolais. Freddy, lors de cette signature, nous sommes dans le bureau ovale. Je dis bien, nous sommes dans le bureau ovale. Et c'est la première ou le premier accord qui est signé dans le bureau ovale. Et lors de cette signature, Donald Trump regarde le deux ministres qui engageaient les deux pays concernés en disant tout celui qui se mettra, n'est-ce pas, à bafouer cet accord retrouvera les États-Unis sur son chemin. Donc, il y a une pression, il y a un caractère contraignant. Mais je reviens parce que ici nous sommes sur les notions pratiques de la diplomatie et aussi nous sommes dans la sociologie de conflit. Dans la sociologie de conflit, je le rappelle, cher Freddy, que le médiateur ou le facilitateur ne peut pas s'inscrire à quelqu'un, à un maître ou donneur des injonctions. Mais là, nous sommes face à quelqu'un qui impose aux deux parties.
C'est qui?
Vous avez Donald Trump qui leur dit... Quand vous ne respectez pas, vous aurez des sanctions. Donc, pour citer, il y a lieu que les Congolais retiennent que cet accord va marcher et les résultats seront escomptés. Pourquoi? Parce que les États-Unis, qui visent leurs intérêts et qui veulent assez qu'ils investissent au Congo et qu'ils exploitent le minerai, et la plus grande partie des minerais que les États-Unis sont appelés à exploiter se trouve dans la partie occupée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Donc, les États-Unis ne laisseront pas une de parties prenantes qui vouloir bafouer les efforts consentis pour la signature de cet accord.
Je ne sais pas si le doyen Alain Botoko pourrait dire quelque chose sur l'assurance, parce qu'il y a des Congolais qui estiment que vraiment on ne peut pas changer la donne avec cet accord de paix de Washington.
Oui, je vais apporter une petite nuance dans ce qui se déclare. Vous savez, et ça je l'ai toujours dit, je l'ai dit même dans l'émission passée, qu'il faut qu'on travaille, il faut travailler, il faut qu'on travaille. Les autres ne viendront que nous appuyer et la solution, c'est nous-mêmes. Moi, je pense que la responsabilité du gouvernement congolais, des Congolais maintenant, c'est de travailler à ce que nous sachions quels sont les minéraux que nous avons dans le pays. Où est-ce que les autres vont venir pour pouvoir exploiter ça? Et qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voudrions de nos minéraux pour demain et après-demain? Et les partenaires qui sont là déjà, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et nos lois et tout. Parce qu'en fait, en réalité, cet accord-là, il est meilleur et il va nous pousser à une nouvelle gouvernance, à une nouvelle façon de travailler. Parce que les Américains, ils l'ont dit, ils les réclament haut. Hein. et qui ne voudront pas accepter qu'il y ait la corruption, la fraude, le manque de justice. Il faut que les choses marchent. Et moi, je pense que comme le ministre, le jeune ministre qui est parti, là est parti, il faut un autre jeune ministre qui vient à cette fois ici, qui applique effectivement une justice, qui corrige les choses. Parce que les magistrats, en tout cas, ils ont prouvé qu'ils ne font pas le travail comme il se doit. Et il faut que le travail commence maintenant. Il faut sécuriser les affaires. Parce que les Américains viennent pour investir leur argent. Il ne faut pas qu'ils trouvent encore le mafia, les mauvaises choses dans ce pays. Et je crois qu'il y a des efforts à faire. Et moi, je l'ai toujours dit, que quand il y a changement, ça impose. Les hommes refusent ça. Ils repoussent ça. Et donc, il faut du sérieux, il faut du travail. Le président du travail, le premier ministre qui va vérifier, qui va arriver, ou la première ministre, tous les ministres qui seront mis en place, ils doivent travailler pour que les autres voient que oui, il y a des efforts de ce côté-là, nous pouvons les appuyer. Et si nous continuons à penser que les autres viendront, ils vont prendre notre place, ils vont chasser Kagame, ils vont faire ceci, non, nous devons continuer à travailler. Et Kagame le sait, que si nous travaillons, si nous nous concentrons dans le travail, il ne saura plus tenir. Et moi, je pense, je crois fermement qu'on doit réfléchir dans ce sens. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de mettre des doutes. Les doutes sont normaux parce qu'on a vécu dans le passé. Et maintenant, il faut que les choses changent pour que nous allions de l'avant.
Merci bien. Je vais prendre aussi vos conclusions pour cette tribune de presse. Vous savez, lors de la signature de cet accord de paix à Washington, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, il y a eu une journaliste qui a témoigné sur la situation en RDC. Et moi, je me dis maintenant, qu'est devenu attendre de pour parler de Doha au Qatar entre les rebelles du M23 et les délégués du gouvernement sous-minois? Ça sera pour le cinquième round que ces délégués se rencontrent. Est-ce que Doha pourrait changer les choses?
Oui, Freddy, cette question est très très capitale.
Et ça sera votre conclusion?
Oui, pourquoi? Parce que, et ça c'est la stratégie que Kagame a utilisée tout le temps, le cheval de Troie. Le M23 et tous ceux qui sont autour, AFC, tout ça.
Le cheval de Troie signifie?
Oui, ça signifie que... Je vous donne à gauche, je récupère par la droite, faire le malin dans le deal. Et donc ce qui ne peut pas retirer par l'accord qu'il a fait avec le Congo à Washington, il veut chercher à le retirer à Doha. Et donc il faut que notre gouvernement ouvre les yeux. Et moi je crois fermement que maintenant que tout le monde a vu déjà que c'est Kagame, en fait Kagame et le Rwanda qui sont au Congo et qui sont en train de piller les richesses du Congo, il faut que ça cesse. Et ces hommes, ces femmes qui étaient là, s'il y a des Congolais qui sont là-bas, il faut vraiment le checker, savoir qui est qui à ce moment-là, et non pas le mettre dans l'armée, mais il faut les donner du travail ailleurs et les installer au Congo s'ils sont Congolais. Et ceux qui ne le sont pas, ils peuvent rentrer et personne ne perdra, parce que à ce moment-là, la paix sera installée et plus personne. Et on va mettre une sécurité à l'Est comme il se doit, et le pays sera sécurisé et ces bêtises vont s'arrêter. Parce que trop, c'est trop.
Et pour vous, Guy Yuma, le pour parler, il y a des négociations qui se font à Doha, au Qatar, entre les M23 et les membres du gouvernement sous-minois. Qu'en pensez-vous de cette situation sur le terrain? Est-ce que le M23 va devoir quitter la RDC?
Merci, Freddy. Je pense qu'à Washington, l'accord s'est signé entre États. À Doha, c'est un mouvement qui s'est... déclare ou réclame être congolais et qui présente aussi, n'est-ce pas, ses conditions quant à tout ce que ce mouvement reproche au gouvernement
congolais. Mais le gouvernement semble être intransigeant. Le gouvernement est vraiment ferme.
Donc, je pense que les discussions de Doha, les discussions de Doha, je m'en vais dire que ce sont des discussions qui interviennent pour assainir. C'est-à-dire assainir le terrain et aussi harmoniser les choses d'après les conditions, les réclamations de ces mouvements. Parce que le M23 s'est fait passer pour un mouvement congolais et que dans l'accord signé, on fait référence aussi aux discussions qui sont plutôt en train de se poursuivre à Doha. Donc, il est évident que le gouvernement de Kinshasa, d'après ces discussions, arrive, n'est-ce pas, à s'inscrire dans une logique d'évaluer les choses. C'est-à-dire, quand je parle de l'évaluation, n'est pas se plonger ou soit se laisser emporter ou emballer par ces mouvements du M23 qui, du reste, est soutenu par le Rwanda, nous le savons tous. Donc, comme l'a dit l'aîné, il est la question de voir qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter, mais dans le seul objectif de favoriser la paix dans la population de cette partie occupée par l'armée rwandaise à temps.
Belédou, d'où Jésus, nous terminons avec vous par rapport à ce qui se passe à Doha au Qatar. Il y a déjà un accord de paix de Washington, mais la fumée blanche n'est pas encore sortie entre le M23 et le gouvernement. Pensez-vous que la population de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi pourront un jour respirer la paix?
Justement, je vais faire une petite interruption avant de répondre à votre question. Vous savez, il y a quelqu'un sur le plateau, je crois Yumba, qui posait la question sur lorsqu'il a abordé la sociologie des conflits en droit international. Il faut dire aussi que dans cette même théorie, les facilitateurs peuvent jouer aussi le rôle de témoin ou de garant. Ça veut dire que les facilitateurs peuvent être invités à agir en tant que témoin ou garant de l'accord, pour qu'il y ait des cas avec les États-Unis. Parce qu'on posait la question sur les garanties. La garantie, la grande garantie pour les Congolais, c'est la présence des États-Unis dans la médiation. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, je pense que les plus malheureux dans le DIB, dans cette histoire, c'est malheureusement Nanga, le M23 et Joseph Kabila. Ce sont eux les plus malheureux. Il faut rappeler ici que lorsqu'on parle de Doha, n'ignorez pas que les deux chefs d'État se sont rencontrés à Doha. Ça veut dire que Doha avait déjà entériné le fait que c'est le Rwanda qui est le vrai patron du M23 et l'AFC. Et la conclusion, c'est que lorsque vous regardez le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, ben, il est mentionné explicitement comment est-ce qu'il y a eu une collaboration entre les troupes rwandaises et Nanga qui n'a jamais tiré une Kalachnikov, qui venait de la CENI, qui n'avait que des papiers, des chiffres à proclamer, avec une armée derrière lui, l'AFC. Et donc, les groupes des Nations Unies ont démontré, à travers la conclusion de leurs enquêtes, comment est-ce que le Rwanda a parrainé et l'AFC du M23, et l'AFC de Nanga et Joseph Kabila, et le M23. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, la RDC a entendu, bien évidemment, les revendications du M23, libération de 700 prisonniers, ouverture des banques, etc. Mais ces revendications-là ne tiennent pas compte de l'accord de paix. L'accord de paix, justement, qui vide les revendications du M23.
Mais le gouvernement ne veut pas se plier par rapport aux revendications du M23.
Non, s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que je fais ce tableau. Je vous expliquais c'est quoi l'AFC, c'est quoi les M23. Je me suis appuyé même sur le rapport des experts de l'ONU que les Congolais savaient déjà bien avant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le M23 refuse son désengagement, tel qu'elle est pris dans la résolution des Nations Unies 2773, la partie congolaise prendra acte et, rassurez-vous, que toutes les conséquences seront tirées de la part des Américains, parce que quelqu'un l'a rappelé ici, que les États-Unis tiennent au respect des accords, référence à ce qui s'est passé tout récemment en Iran.
Merci, chers auditeurs. Tribune de presse prend fin sur Radio Okapi. Merci à vous, Belédou Dou Jésus, à vous, Guillaume Yuma et à Alain Botoko. Merci de nous avoir suivis, Paul Badianyama, Jean-Pierre Diassinois et Debs Vita étaient à la technique. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Au micro, c'était moi, Freddy Ignace Bikumbi. Je vous laisse entre les bonnes mains de Jean-Pierre Dassinois.